Bonjour tout le monde, c'est Emmanuelle Robitaille. Cette semaine, à l'émission, on parle d'un sujet encore qui touche tout le monde, qui est l'estime de soi. Tout le monde a une estime de soi. Dans la vie, c'est général, on a une estime de soi. Ce qui est moins commun, par contre, c'est l'objectivité de l'estime qu'on porte sur nous. Est-ce qu'elle est juste, en termes de justesse? Est-ce qu'elle est réaliste ou non? Est-ce qu'elle est objective ou pas? C'était très, très important pour moi de parler de ce sujet-là parce que ce que je remarque dans mon entourage, dans mon quotidien, dans mon passage dans la vie, c'est un fléau qui fait du mal à tout le monde et c'est un manque d'estime de soi fréquent. Souvent, je le vois dans tous les domaines, tous les âges, tous les genres. Ce qu'on réalise pas quand on a un manque d'estime de soi, c'est le mal qu'on se fait à nous-mêmes, tout d'abord, et à ceux qui nous entourent. Parce qu'on prive les gens de la ressource qu'on est en tant qu'humain, en diminuant notre apport possible, en fait, dans la vie des autres. Qui dans votre entourage vous voyez ne pas se valoriser à sa juste valeur, s'évaluer à sa juste valeur? C'est dommage. Je sais de quoi tu es capable, moi je le sais, puis vous voyez que cette personne-là ne le voit pas. C'est quoi l'estime de soi? C'est quoi la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi? Comment elle se construit? Comment elle se déconstruit? On en parle aujourd'hui dans Emmanuel avec un M. Et deux L. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk and all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that. I'm all about that bass. Alors, cette semaine, l'estime de soi. J'ai dit qu'il y avait une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Vous savez, la confiance en soi est différente de l'estime de soi dans la mesure où la confiance en soi touche notre sentiment d'être capable de faire quelque chose, donc la capacité. Par exemple, j'ai confiance en moi pour ce qui est de la communication, pour de la chanson. Je suis chanteuse, j'interprète, je travaille les mots, j'adore ça et je me sens compétente à communiquer des idées sans problème, que ce soit dans les médias, à la radio, ici avec vous, que ce soit à la télévision ou en chanson. Par contre, si vous me demandez de construire votre maison, dans la charpenterie, par exemple, ça, c'est un domaine dans lequel je me sens un petit peu moins confiante et avec raison, vous voulez vraiment pas que je construise votre maison. Donc, voyez-vous, c'est vraiment en termes de capacité. Quand on parle d'estime de soi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Si je reprends l'exemple de la maison, on pourrait dire que c'est la fondation de la maison. L'estime de soi est directement reliée à la valeur qu'on porte à son être. Qu'est-ce que vous valez à vos propres yeux? C'est directement relié à l'amour de soi. Ça s'ancre rapidement dans la vie humaine et ça change au fil du temps. Pour ma part, c'est clair que ça se construit et ça se déconstruit de plusieurs façons. Mais qu'est-ce qui construit, déconstruit, fait varier l'estime de soi? Parce qu'au final, les théories disent que l'estime est beaucoup plus stable, moins variable que la confiance en soi. T'sais, la confiance en soi va changer en fonction des domaines dans lesquels on l'évalue. Mais l'estime est beaucoup plus ancrée, plus profonde chez l'être. Contrairement à certaines théories, moi, je pense que notre vie peut changer à tous les jours et on peut reconstruire ce qu'on veut quand on veut. Par contre, n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas nier le fait que l'estime est touchée de diverses façons. Et premièrement, échouer dans plusieurs choses qui sont importantes pour nous peut venir nous affecter à un niveau profond. Si je reprends les termes estime de soi et confiance en soi, je vous ai dit que l'estime, c'est la fondation. La confiance, on peut voir ça comme les murs, la charpente, le toit, les fenêtres. Si on accorde de l'importance à un domaine dans lequel on veut vraiment réussir et qu'on échoue une fois, ça va. Deux fois. OK, on réévalue la chose. Trois fois. Quatre fois. Ben là, je viens de toucher les quatre murs de la maison. Et je ne sais pas si vous savez, mais s'il n'y a plus de mur à tenir, la fondation se demande ce qu'elle fait là. C'est quoi son utilité? Et là, on s'en va dans l'estime. Là, on s'en va toucher profond. Donc, nécessairement, quelqu'un qui a une faible estime d'elle-même va avoir beaucoup de difficultés à avoir confiance en elle dans quelque domaine que ce soit. Par contre, quand la confiance s'amenuise, elle peut finir par toucher le fond, le cœur de tout ça, la fondation qui est l'estime. Et j'ai nommé un domaine important pour nous. Parce que moi, pour vrai, ça ne me dérange pas de ne pas être capable de construire des maisons. Qu'est-ce qui est important pour vous? Un domaine qui vous importe vraiment, là. Est-ce que ça vous arrive de faire des choses que vous foutez, littéralement? Vous ne réussissez pas, puis ça ne vous dérange pas. Mais il y a d'autres choses, vous dites, Emmanuel, ça, par exemple, ça, je me dois de réussir. Et là, ça sous-tend le désir de la personne de réussir. On est là pour s'accomplir. On est des âmes qui veulent nécessairement s'épanouir, évoluer, grandir. Comment faire? Ben, s'accomplir dans quelque chose. Tu sais? Le regard des autres. On peut-tu en parler plus souvent dans tous les domaines, sur tous les sujets? Le regard de l'autre, il commence dès le départ avec le regard de la mère sur l'enfant. Et on a beau dire « ne te définis jamais dans le regard de l'autre », c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Que ce soit nos parents, la fratrie, frères-sœurs, les enseignants. Vous vous rappelez le nombre de personnes importantes que vous avez rencontrées à un bas âge? Le regard qu'il vous renvoyait était important pour définir votre identité. À l'enfance, c'est super important, mais il y a aussi un processus d'individuation qui commence à l'adolescence. Vous le savez, quand on est jeune adolescent, là, on a un moment où on va choisir nos valeurs, on va choisir nos croyances. OK, voici tout ce qui m'a été appris par mes parents. Maintenant, je fais un choix. Ça, ça m'appartient. Ça, ça me ressemble. Ça, je garde ça avec moi. On fait notre bagage pour le reste de la route, ou du moins, c'est un des grands processus qui est noté, le processus d'individuation. Si à ce moment-là, dans notre vie, on se fait dire qu'on fait des mauvais choix, comme on est en train de construire notre identité, imaginez-vous l'impact que ça a quand on se fait invalider. Imaginez. Il suffit d'une seule personne. Si pour moi, avoir des beaux cheveux, c'est important, là. Ce qui est, parce que je suis lion en vie, la crinière est bien importante. Il y a bien beau avoir 100 personnes qui me disent que j'ai des beaux cheveux. S'il y a une personne qui me dit que j'ai des pas beaux cheveux et que c'est important pour moi d'avoir des beaux cheveux, c'est bénin, là, c'est simple. Mais pensez-y. Ça se pourrait que le soir, ça soit à cette personne-là que je pense. Parce qu'on a un cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qu'on a tous qui est responsable de la réponse fight or flight, qu'on appelle, donc se sauver ou se battre. Ça sert de survie. On s'en sert pour survivre. Ça fait partie de notre machine. Et ça fait en sorte que notre cerveau est un petit peu biaisé dans les informations qu'il reçoit à chaque jour parce qu'il va accorder souvent plus d'importance aux éléments négatifs qu'il va recevoir par survie. Oh, alarme! Oh, il y a quelque chose qui menace mon intégrité, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle. Donc, on n'accorde même pas le même poids ou la même valeur aux choses que l'on intègre négativement et positivement. Il faut en prendre conscience de ça. Est-ce que c'est arrivé une fois ou plusieurs où vous avez intégré cette chose-là? Difficile, négative, à l'intérieur de vous, vous y avez accordé de l'importance, malgré tout le reste, en dépit des merveilleuses choses qui l'entouraient. Prendre conscience de ça. L'estime de soi, je vous l'ai dit, théoriquement, elle est stable, mais pour moi, elle varie grandement, et on aura le plaisir, ensemble, d'en parler avec notre invitée aujourd'hui, est Mélanie Renaud.
J'ai grandi pas loin d'ici, dans le troisième arrondissement, où les rêves se font endormis. Une fois debout, on n'a plus le temps. Mon père gagnait sa vie à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qui posait le même morceau. Ma mère faisait des ménages, moi je rêvais d'être écrivain. Et puis de pelleter des nuages pour que le soleil brille enfin. Mais j'étais si mauvais à l'école que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas de ceux qu'on traitait de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Mais y'avait Monsieur Desilets, un prof fin et disponible, qui m'avait pris sous son aile et croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer, je coulerais le test du ministère. Lundi, j'enverrai mon CV à l'usine de mon père. Mais la veille de l'examen final, le bon monsieur Desilets m'a tendu un crayon banal roulé dans un velours épais. Et puis, tout en fixant ma main, il a dit: ce crayon-là, il est magique, prends-le demain pour l'examen, et c'est les réponses et les répliques. J'suis pas du genre à croire tout ce qu'on me dit, mais mon prof inspirait confiance. Je voulais croire un peu aussi que j'avais peut-être encore une chance. D'ailleurs, à la seconde où je l'ai pris, j'ai senti comme un changement. Je vous jure que je vous compte pas de madri, non. Le crayon était vivant, et contre toutes mes espérances, il écrivait pratiquement tout seul. Sans blague, ça avait presque pas de sens de le voir danser sur les feuilles. J'ai donc passé mon examen comme un petit test de routine, avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. Ah, j'aurais dû rendre le crayon, j'étais quand même pas un voleur, mais pour une fois que je me trouvais bon, puis que l'avenir était en couleur, j'ai mis le stylo dans ma poche, puis je suis parti en courant, la conscience aussi lourde qu'une roche qu'on brise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenu l'auteur que j'espérais. J'ai même vendu dans le monde entier tous mes bouquins et mes essais, mais avec le sentiment étrange qu'au fond, j'avais rien accompli. Le crayon vainquait les pages blanches, moi, je n'étais que son outil. Je me suis mis à boire plus qu'il ne faut pour oublier que je n'étais rien. Je roulais dans une Camaro sur laquelle mon père s'usait les mains. En plus, j'avais toujours peur qu'on me vole mon précieux crayon ou que me dénonce mon professeur. Le sang serait vraiment fini pour de bon. Ils m'ont retrouvé hier soir à une séance de dédicace. Tout autour de ses yeux noirs, le temps avait laissé sa trace. Je lui devais mon succès et des excuses comme de raison. J'ai dit, Monsieur Desilets, vous venez chercher votre crayon. Il m'a souri tristement en disant, t'as toujours pas compris. Il est dans ta tête ton grand talent, le stylo venait de chez Uniprix. Laisse-moi te regarder maintenant. Je suis si fier de toi, y'a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins trois fois. Moi je me suis levé d'un coup, j'en croyais juste pas mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le cou, la vérité me donnait des ailes. Tellement qu'en arrivant chez moi, j'ai jeté le stylo par la fenêtre. La lumière brillait sur les toits et les mots dansaient dans ma tête. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, non. J'ai écrit sans m'arrêter le nombre de feuilles que j'ai noircies. Je pourrais même pas les compter. Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui a tellement pas confiance en lui, qui trouve plus facile de croire qu'un crayon peut faire de la magie. Car dans le troisième arrondissement, les rêves volent pas très haut. On les laisse traîner sur un banc devant l'usine de Camaro. Et comme on entend la machinerie crier jusque dans le cours d'école, on comprend vite dès qu'on est petit qu'il y a juste les oiseaux qui s'envolent.
Vous êtes toujours dans Emmanuel avec un M et deux L. Cette semaine, on parle d'estime de soi et on en parle avec une invitée que je suis tellement contente d'avoir à mes côtés. Vous l'avez connue avec son grand succès « Je m'en veux » sur l'album « Ma liberté » en 2001, révélation de l'année en 2002 à la disque. Elle a fait Esmeralda dans Notre-Dame de Paris en 2005. Elle sort son nouvel album « Fil de fer » actuellement. Mélanie Renaud. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Comment ça va?
Ça va bien. Toi aussi?
Oui, ça va bien. Okay. Ça va très bien, en fait. Je suis vraiment heureuse de parler avec toi cette semaine. Mm-hmm. Je t'ai vue il y a quelques semaines, on t'a vu à Tout le monde en parle, et t'as été d'une honnêteté, d'une transparence, d'une authenticité qui était belle, et tu m'as vraiment interpellée. Alors, j'ai pris le téléphone, puis j'ai dit, Mélanie, il faut qu'on se parle. Okay. T'es très gentille d'avoir accepté de venir parler de ça avec nous aujourd'hui. Grosso modo, tu parlais de ton estime de soi de tellement de façons différentes que c'est de ça dont j'ai voulu qu'on parle ensemble aujourd'hui puis qu'on parle aux auditeurs qui nous écoutent. Un moment d'authenticité puis de l'évolution de cette estime-là. Premièrement, t'as été adoptée.
Mm-hmm.
Bon, c'est pas quelque chose qui est nouveau, là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas la grande nouvelle de la journée. Ce que je trouve particulier dans ton cas, c'est que, bon, moi, j'ai parlé de l'estime de soi comme étant la valeur qu'on accorde à sa personne. Mm-hmm. Et toi, tu dis qu'à un moment donné, tu l'as mal géré, cette, entre parenthèses, amour de soi. Là, on va y apporter des nuances, mais c'est ce chemin-là de ton amour de toi dont je veux qu'on parle. Okay. Parce que j'ai parlé tout à l'heure du regard des autres, mais dans ton cas, ça partait avec l'absence du regard de quelqu'un. L'absence de ta mère, finalement, tu sais, de ta mère biologique.
L'adoption, là.
C'est qui la petite Mélanie? Comment t'as vécu t'aimer ou pas t'aimer quand t'étais plus jeune?
Quand j'étais plus jeune.
Ouais.
Je pense que la couleur de peau est venue faire en sorte que je m'aimais pas. Ouais. Parce que j'étais adoptée par une famille de Québécois et à un moment donné, ma mère m'a dit que, je m'en souviens pas, mais j'étais à l'école, là, peut-être quatrième année ou deux, troisième année. Puis il y avait un gars qui m'avait traité de négresse. Puis j'étais arrivée chez nous, puis, chez mes parents.
Ben,
j'avais pris
vous,
ma peau. Puis je l'avais comme pincée. On leur dit pourquoi moi je suis noire. Fait que l'inacceptation, je sais pas si ça se dit inacceptation. Ça
tout se dit. Moi,
non,
je pense que tout se dit.
Il faut pas inventer un vocabulaire.
Moi, j'aime
non plus.
Ça inventer des mots.
Mon ami fait ça.
Moi,
en tout cas, mais il se comprend, c'est cool. Je le comprends aussi.
L'inacceptation.
Ouais, on a commencé là.
OK.
Parce que ma mère a tout le temps été claire avec ma sœur et moi, parce qu'on est deux, là. Mm-hmm. En lien avec notre adoption, elle nous a tout dit la vérité. Mais quand tu sors de chez vous, comme tu dis, tes quatre murs, ta maison, puis tu fais face à la société, tu comprends ce que je veux dire?
Mm-hmm.
Fait que c'est ça.
Mais tu sais, quand je disais, il y a tout le temps, il y a un moment, quelque part, souvent dans la jeunesse, ou dans, tu sais, c'est pas vieux, là, je veux dire, deux, troisième année, on parle d'un 8 ans, 7
ouais,
ans.
À peu près.
Puis tu t'en rappelles jeune. Encore, cette
personne
non,
personne-là. Je m'en rappelle pas. C'est ma mère qui me... Ma
t'en
mère, ma tante même, ouais.
Mais il reste qu'à ce moment-là, t'as ressenti de la non-amour, tu t'es pas aimée.
Non, c'est ça. Hey, c'est ça, ça a commencé tôt, hein.
C'est jeune.
Hey, c'est pas drôle. OK.
C'est pas drôle, mais c'est vrai. Puis quand on le sait, moi, je suis tout le temps dans la prise de conscience. Conscience. Quand on sait, c'est de l'empowerment. C'est un gros anglicisme, là.
Okay, non.
Mais je pense que ça peut pas... je peux pas mieux m'exprimer. Donc, 8 ans, 7-8 ans, tu reçois cette critique-là qui te suit puis qui finit par ton apparence, faire en sorte que tout ton amour de toi prend le bord pour une raison. Comment ça évolue, ça?
OK.
Tu l'as traîné combien de temps? T'as fait quoi avec ça?
Surestime de soi. Tu sais, là, à l'opposé.
T'as compensé.
Ouais. Donc, j'ai... Oh, mon
Dieu. Je pense que...
OK, je viens...
Ça reste entre nous autres.
Je viens aussi d'une famille où on joue du coude. Mes frères, c'était comme... chien-chat. Fac. Moi, j'abaissais ma soeur quand j'étais petite, j'étais pas fine avec ma sœur. Puis aujourd'hui, elle me clenche comme exponentielle 4. Mais, ouais. Et j'étais leader, mais j'étais pas une bonne leader. Là, je te parle de l'enfance, adolescence, secondaire. J'étais pas une bonne leader, mais j'avais, tu sais, pas la théorie de l'attraction, mais un pouvoir d'attraction. Tu sais, je pouvais choisir mes amis. Sauf que quand je venais me pogner avec une de mes amies, je devenais comme... Je voulais comme l'écraser. Mais j'ai fait ça à toutes mes amies. Fait que quand... Comment tu sais ce que je veux dire? Quand j'ai fait le tour de toutes les filles, on fait comme, OK, on va y faire goûter à sa propre médecine. Donc, mais pourquoi, là, je te dis ça, là?
Tu me parlais que... Je te demandais qu'est-ce que tu avais fait avec cette non-amour de toi-là quand tu as commencé à l'intégrer. Comment ça s'est géré? Puis tu l'as complètement compensé en... essayant d'écraser les autres comme finalement pour éviter d'être écrasé.
Eh oui, mais oui.
Tu sais, mais...
Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Il y a encore des répercussions de ça parce que ça, mon amour... Non, c'était pas de l'amour. L'amour fake. Je peux-tu utiliser cet anglicisme-là?
Utilise ce que tu veux.
Surestime, amour fake.
On est dans notre salon
fucking
aussi.
Fake, est-ce que j'ai des implants. Cet amour fake.
Mais c'est parce que tout ça s'est passé avant que tu sois une personne publique, en plus. C'est dans la mesure
oui,
où...
Oui, 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 oui. Oui,
il n'y avait pas Mélanie Renaud, celle qui a le regard des autres à ce moment-là. Là.
Attends, on est où, là? Dans ma vie, on se situe où, là?
On a toute l'adolescence. Ça dit que ça continue avec tes amis.
Mm-hmm.
Quand t'as fini par toucher ce privilège de chanter devant tout le monde...
OK.
Y a-tu eu un autre tournant? T'as-tu senti...
Non, 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 j'ai fait...
Ça a continué.
Oui, j'ai fait... des dégâts collatéraux avec les gens avec qui je travaillais. Moi, j'ai fait une dépression. J'en ai fait une comme majeure, là, mm-hmm. où que je me lavais plus. Ça fait à peu près 8 ans. Là, tu sais. Mm-hmm. J'en avais rien à foutre. Je voulais juste comme sortir de mon corps, mourir. Mm-hmm. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, ça va bien. Mais j'ai encore les répercussions de ce que j'ai fait. Aujourd'hui.
Je veux dire, t'es belle.
Je suis fine.
Tu chantes bien. T'es gentille. Ouais. Tout ça, tu sais, il y avait quand même... Tu sais, quand tu te recules puis tu regardes avec quoi t'es venue au monde, qui tu es, tu sais. Quand ça, c'est venu à prendre le dessus puis que tu pouvais l'exploiter, puis je veux dire, à grande échelle, là, ça faisait pas un peu te réconcilier avec ce que t'avais? De positif,
ben,
en toi?
J'étais gelée, fait que je pouvais pas le voir à sa juste valeur. Aujourd'hui, la chance que j'ai de revenir, c'est correct, mais moi, j'étais hyper gâtée. Mm-hmm. Fait que j'ai tout pris d'acquis. Quand j'ai commencé à chanter, là, j'ai tout pris pour acquis.
Je trouve ça vraiment super intéressant. Il y a le avant et le après. Et tu parles aussi que il y a cette façon-là qu'il faut se remettre de ce moment-là. On continue à en parler avec Mélanie Renaud. Vous êtes toujours avec Emmanuel Robitaille dans Emmanuel avec un M et deux L. Cette semaine, on parle toujours d'estime de soi avec Mélanie Renaud, qu'on écoute en musique à l'instant.
Laisse pas le soleil se coucher. Je n'ai pas envie de voir la fin de la journée. Et que l'orage vienne détruire tout ce que tu as bâti. Laisse pas le soleil se coucher sous la pluie. Laisse le soleil. Son âme.
C'était Mélanie Renaud que vous venez d'entendre avec Laisse le soleil briller sur son nouvel album Fil de fer qui est sorti le 24 novembre dernier. Okay. On l'a avec nous en studio. Mélanie.
Allô. Je fais mon test de son. Ça va, c'est correct.
Laisse le soleil briller. Puis je trouve ça incroyable, ce type de chanson-là, parce que...
Ça dit tout.
Puis tu as dit en entrevue, et je te cite, ouvrir les guillemets. Maintenant, je crains quasiment les compliments.
Mm-hmm.
Tu ne laisses plus le soleil briller, entrer dans ta maison?
Non. Mettons que tu me dis un compliment, je vais te relancer en te disant une réalité. Pour être sûre de...
T'as-tu un exemple concret? Mettons, je te dis, Mélanie, t'as une voix qui est incroyable.
Je travaille. Ça demande du temps.
OK. Si
je merci. Te dis... Mais je vais dire merci.
OK. Si je te dis, Mélanie, c'est vraiment beau ce que tu portes aujourd'hui, je le pense. Je pense tout ce que je dis présentement. Là.
Je vais te le dire. Je m'habille chez ma tante.
Ah oui?
Oui. Je pense que ça fait comme 3-4 ans que je m'habille là.
Mais ta tante, c'est vraiment...
C'est comme... Non, mais c'est comme un Walmart des pauvres. OK? Mm-hmm. Puis, il y a comme des morceaux uniques, comme dans une friperie où il faut que tu cherches. Là. Mm-hmm. Puis, mais ça, j'aime ça m'habiller là.
Fait qu'à chaque fois qu'il y a un soleil
parce que
qui fait
ça
lancer...
va avec mon budget que j'ai pas. OK, hey, vas-y.
Non, mais pour vrai, ça veut dire qu'à chaque fois que tu reçois un compliment, tu ressens le besoin. Est-ce que c'est réfléchi ou ça se fait automatiquement, ça, de revenir, de revenir à l'humilité? On peut appeler ça contrebalancer?
Mais oui. Ça me protège du fait que je me suis enflé la tête. Ces dernières années, je me suis... éclaté, fait que je me suis comme placée, là. Mais, c'est une façon de me protéger, c'est ça.
Puis à ce moment-là, donc, ce que je comprends, c'est qu'à ce moment-là, quand on finit par être... Bon, OK, tu le dis, j'ai été une grosse tête. On peut penser, finalement, que tu t'aimais trop, mais tu le nommes. C'était parce que je m'aimais tellement pas que c'est j'avais ça. Besoin.
Mais je savais pas, je m'aimais pas. Mm-hmm. OK. C'est quand je me suis retrouvée toute seule que j'ai fait, oh là là!
Funiculaire.
Funiculaire, c'est quoi ça? Oh fuck! Mais funiculaire, je sais pas.
Un funiculaire.
OK.
Elle est bonne. Mais ouais, t'es revenu à toi, t'es arrivé tout seul, puis t'as fait OK, c'est pas. Je faisais pas ça parce que j'étais bien, là.
Non.
Quelqu'un de bien fait pas ça.
Non. Tantôt, tu disais de pas se définir à travers le regard des autres, hein?
Je disais que c'était surtout plus facile à dire qu'à faire.
Non, mais moi, c'était que ça. Tout le temps.
Mm-hmm.
Quand je me suis retrouvée toute seule, je me suis regardée dans le miroir, puis je savais pas j'étais qui. J'étais devant un inconnu. Il a fallu que j'apprenne à me connaître.
Fait que finalement, l'amour que tu te portais, parce que ça, c'est nécessaire, c'est un processus qui est propre à tout le monde. De se voir dans les yeux de l'autre. Donc, t'avais ta mère, t'avais tes parents, t'avais tes frères et sœurs, pour qui tu dis que de jouer sur la place, parce que c'était un peu votre place que vous cherchiez finalement.
Ouais.
Fait que toute ta vie, tu t'es battue pour avoir une place. Quelque part.
Ah non!
C'est ça?
Je me suis dit... Entre frères et sœurs, non, je l'avais ma place. Mes deux frères se battaient, par exemple, pour avoir leur place. Pour avoir leur place aux yeux de ma mère.
Mm-hmm.
Puis... c'est ça. Moi, je me suis battue pour avoir ma place de leader que j'ai perdue. C'était mieux de même. Ouais.
Puis aujourd'hui, comment tu gravis les marches vers t'aimer? Je voudrais dire t'aimer à nouveau, mais quand on réalise qu'on s'est peut-être jamais aimé, comment tu travailles ça?
Je m'aime un peu plus, là. Oui.
J'espère.
Regarde, ouais.
Vois-tu mon sourire?
Ouais. Tu t'aimes-tu?
Je m'aime de plus en plus chaque jour, mais ça varie. Il y a des journées où je me sens pas à mon top, c'est bien correct.
Ouais, t'sais. Ouais.
Il y a des choses de quoi je suis pas fière. Il y a des choses de quoi j'apprends à être fière. Tu sais, le syndrome de l'improviste et le narcissisme et tout ça, ça touche. C'est tous des revers d'une même médaille, tu sais. Comment tu les gravis chaque jour, ces marches-là?
Ma discipline m'aide. Tu sais, moi, le matin, il faut que je me lève en sachant ce que je vais faire. Puis que quand je vais me coucher, je suis comme, OK, je l'ai fait, bien fait, tant mieux. Mm-hmm. À demain, genre.
Donc, quand tu es capable de voir que tu as accompli quelque chose, ça te donne quoi? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu sais, par rapport à la confiance en soi. On est là pour s'accomplir, on est là pour s'expansionner, on est là pour...
Expansionner, je ne sais même pas si tu pouvais conjuguer.
Ça existe-tu, ça?
Waouh, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Mais c'est ça, on est là aussi pour vivre ces succès-là. Donc, quand tu sens que tu as mis ton cœur et ton corps et ton être dans ta journée vers quelque chose que tu as bien fait, ça t'apporte la possibilité de te féliciter puis d'être fier de toi, de te coucher la tête en paix. C'est ce que je comprends?
Oui. OK.
Puis pour les belles choses qui s'en viennent, c'est quoi? On te voit à l'Astral bientôt?
Oui, le 17 février 2018, je vous invite en grand nombre.
J'espère.
À Première Montréalaise. Il va y avoir des dates de bouquet à Québec, au Petit Champlain, mais là, c'est à confirmer. On reste en contact.
Absolument. De toute façon, sur ma page Facebook Emmanuel Robitaille, tu es annoncé. Les gens peuvent aller cliquer sur le lien pour aller voir Mélanie Renaud sur Facebook. Tous les événements, les liens vont être là. Tes dates vont apparaître et Fil de fer est disponible actuellement.
Actuellement.
Physique.
Et
iTunes. T'es sur iTunes.
Ah, numérique, oui. Plateforme numérique.
Tout est là.
En magasin, oui, le 24, l'album.
Moi, je te souhaite.
Sa parution.
Ouais.
Je te souhaite. Le 24 novembre.
De l'amour de soi qui déborde des sourires et des soleils qui brillent pour longtemps encore. Ouais. Merci infiniment,
gentil,
Mélanie,
Emmanuel,
d'avoir accepté. Merci beaucoup.
And all I remember is your back. Walking towards the airport, leaving a soul in your past. I traveled 1,500 miles to see you. I begged you to want me, but you didn't want to. But piece by piece, he collected me up off the ground where you abandoned things. Piece by piece, he filled the holes that you burned in me at 6 years old. And you know, he never walks away, he never asks for money, he takes care of me, he loves me. Piece by piece, he restores my faith that a man can be. And the father could stay. And all of your words fall flat. I made something of myself and now you wanna come back. But your love, it isn't free. It has to be earned. Have anything you needed, so I was worthless. But piece by piece, he collected me up off the ground where you abandoned things. Piece by piece, he filled the holes that you burned in me at 6 years old. And you know, he never. That a man can be kind and a father could stay. Peace by peace. Peace by peace. I fell far from the tree. I will never leave her like you left me. And she will never have to wonder her worth. Because unlike you, I'm gonna put. No, he'll never walk away. He'll never break her heart. He'll take care of things. He'll love her. Piece by piece, he'll restore my faith that a man can be kind
And a father should be great. Piece by piece, piece by piece.
Je vous ai demandé cette semaine sur la page Emmanuel Robitaille, est-ce que c'est possible, parce que j'ai une grosse question, est-ce que c'est possible d'avoir trop d'estime de soi, de s'aimer trop? C'est une grosse question. Et il y a Sylvain, entre autres, qui a répondu, qui m'a parlé de ce fameux narcissisme et je l'attendais parce que je savais que c'était... on a tous l'exemple de la personne hein, au torse gonflé, l'espèce de... on peut le dire un coq. Hein, le coq de la basse-cour qui parle fort, qui prend de la place, qui a cette impression d'avoir tout pour lui, de tout posséder, tout pour lui puis tout pour elle. Parce qu'il y a un gros stéréotype dans nos têtes, on va le dire. Là. T'sais, c'est comme, je parle au masculin, ça en dit gros, mais attention, il y a des femmes aussi également qui peuvent, comment je pourrais dire, envoyer cette image-là. On a parlé avec Mélanie Renaud un peu plus tôt et on le voit bien. Et pour moi, c'est clair, on ne peut pas s'aimer trop. Chaque comportement, image et mot reflète ce mal de s'aimer soi-même, même si ça peut être vu comme un trop grand amour de soi ou un narcissisme. Quelqu'un qui s'aime bien, sainement, qui connaît sa place et sa valeur, ne ressent pas le besoin d'en faire plus, d'en dire plus, de parler plus fort ou de ben là, je parle parler plus fort. S'il y a bien quelqu'un qui parle fort dans la vie, c'est moi, je vous le garantis. Mais on parle d'un propos fort, d'écraser les autres. On n'a pas ces choses-là. Donc, quand on parle de narcissisme, puis j'étais super contente de vous lire là-dessus, pour moi, c'est simplement une façon différente de gérer une estime de soi qui est extrêmement basse. On a le syndrome de l'imposteur, on a le narcissique et on a vraiment tout le pan entre les deux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que oui, il y a une seule personne qui peut changer ça. Oui, l'estime de soi, moi, je vous le dis, elle varie, elle change, on peut se reconstruire. Ça peut nous toucher, mais il y a moyen de travailler ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, se responsabiliser. Et ça va être dur, ça. C'est une pilule qui est parfois difficile à avaler, mais se responsabiliser dans ces yeux-là, ils peuvent être à nous. Quand on parle des yeux d'une seule personne pour se changer... À un moment donné dans notre vie, on peut choisir que ces yeux-là, c'est nous. Nos yeux. Parce que essayez-le, quand vous n'êtes pas certain de quelque chose dans un domaine ou quoi que ce soit, aucun compliment, ni en quantité, ni en qualité, ne peut changer cette opinion que vous avez là. De se responsabiliser, de prendre conscience où est-ce que ça a fait mal. Ça aide énormément. Pourquoi? Parce qu'on, sans s'en rendre compte, au fil des ans, on internalise les discours des gens qui nous ont entourés au cours de notre vie. On a parlé des parents, on a parlé des enseignants, des figures à travers lesquelles on se définissait. À un moment donné, on finit par les internaliser. Ça devient des discours intérieurs. Je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un, je vous l'ai dit, je parle fort. Je parle vraiment fort. J'ai comme un mute puis un volume 10, tu sais. Et je suis quelqu'un qui est maladroite aussi. Et pendant un certain temps de ma vie, je vous en parle, là. Chaque fois que je parlais fort ou chaque fois que je brisais un verre, parce que je suis capable de briser des coupes en plastique, je vous le garantis, j'ai cette capacité en moi, ça me dérangeait ou je devenais un peu alerte. Et j'ai fini par réaliser que c'était pas du tout moi que ça dérangeait. Moi, sincèrement, là, parler fort, ça me dérange pas du tout. Ça fait vraiment partie de ma personnalité. C'est pas grave, comme c'est pas grave de pas parler fort. C'est pas grave. J'ai réalisé que j'avais en moi internalisé discours de d'autres personnes qui finissaient par se rejouer dans ma tête. Et quand on réalise ça, puis j'en parle souvent et je vais en reparler souvent de la méta-observation, de ce qui se passe à l'intérieur de nous souvent, je me suis mise à identifier un bourreau à l'intérieur de moi qui est là depuis des années, il est syndiqué, il ne peut pas être mis à porte. Je l'ai appelé, personnellement, je l'ai appelé Gaétan, parce que je ne connais pas de Gaétan. Donc, choisissez vraiment un nom qui ne vous entoure pas. On ne veut vraiment pas personnifier, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Alors, moi, j'ai Gaétan qui est syndiqué, qui me rappelle à chaque fois où je ne suis pas exactement où je devrais être ou quoi faire ce que je sens qu'il faudrait que je fasse aussi parfaitement que possible, etc., etc. Et j'ai récemment engagé Miguel. Miguel est mon entraîneur, coach de vie personnelle très, très positif. Et quand ça parle à l'intérieur de moi, j'essaie de voir qui parle. Est-ce que c'est bienveillant ou c'est pas bienveillant? Ça m'amène plus loin ou ça me détruit? Est-ce que je suis gentille avec moi-même? Et ça, c'est le point 1, juste de s'en rendre compte. C'est pas facile, parce que c'est à l'intérieur de nous. Et savez-vous qu'on a comme 50 000 pensées conscientes par jour? Faut les trouver. Mais une fois identifiées, c'est comme, OK, est-ce que je suis bienveillant avec moi-même? Comment c'est l'exercice? Comment c'est là? Posez-vous la question. Combien de pourcentage dans ma journée suis-je bienveillant avec moi-même? Qui parle présentement? Et la bienveillance est peut-être un petit peu difficile à avoir envers nous-mêmes, mais le truc que je donne souvent et que je me suis donné et que je vous partage aujourd'hui, et tant mieux si ça aide une personne, comme on a parfois de la difficulté à être gentil envers nous-mêmes et avoir de la bienveillance envers nous-mêmes, bien, essayons de voir dans une situation pareille, qu'est-ce qu'on dirait à notre meilleur ami, notre sœur, notre frère, notre enfant, notre filleule, notre nièce, notre neveu, notre mère. Prenez quelqu'un que vous chérissez. Sincèrement, qui vous vient en tête? Est-ce que vous lui auriez parlé comme ça? Est-ce que ce que vous laissez subir à vous-même, est-ce que vous accepteriez ou vous trouveriez ça correct que ça arrive à cette personne-là? Souvent, ça nous... Oups! Oh, pas tant! C'est vraiment un bel exercice à faire parce que ça nous permet de diminuer la différence qui nous sépare de la bienveillance. Et le piège là-dedans, c'est que quand on se rend compte qu'il y a le bourreau qui parle, mais c'est de se taper sur la tête qu'on n'a pas été capable d'être bienveillant envers nous-mêmes. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est comme la poupée russe. Ça, c'est comme, bon, j'ai encore manqué de bienveillance envers moi-même. Mon Dieu, que je suis poche. Wow! Mais c'est magnifique. Rions-en donc. Rions-en à ce moment-là, puis félicitons-nous d'en s'en rendre compte. Est-ce que c'est ça le plus dur, tu sais? La poupée russe. On se rappelle de la poupée russe. Sincèrement. Je vous donne également l'acceptation radicale de Tara Brach, psychothérapeute et bouddhiste à lire, qui travaille sur l'acceptation radicale de nous-mêmes. Elle le dit, nous ne vivons que partiellement notre existence car nous sommes littéralement empêchés, aveuglés par notre haine de nous-mêmes. On doit retourner vers l'acceptation radicale de nous-mêmes. Ce livre est aux éditions Bellefond et je vous le conseille fortement.
Choses là, j'ai pas la
C'est presque tout cette semaine pour l'émission. C'était sur l'estime de soi. Je remercie Mélanie Renaud de s'être présentée, d'avoir accepté avec une telle authenticité de nous partager l'amour et la non-amour qu'elle a eu pour elle-même. Merci à Clotilde Say pour la réalisation de l'album et Jean-Sébastien pour l'album. Hey, lapsus, je suis en train de faire l'album, faut croire. Le studio m'appelle et Jean-Sébastien, la liberté pour à la régie. Merci beaucoup. Je vous rappelle que chaque semaine, vous avez accès à la programmation musicale sur le canal m.vuesetvoix.com. Vous pouvez également consulter la page Facebook pour les questions qui viennent et les sujets qui viennent chaque semaine dans l'émission Emmanuel, un M avec deux L. Je vous demande, en terminant, de quoi seriez-vous capable si vous étiez à votre plein potentiel? Bonne semaine.